Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, il sera question d'un roman déchirant et tragique. Nous irons du côté de la Guadeloupe et nous réfléchirons à la réussite de nos vies amoureuses. Le nouveau roman de Sorge Chalandon est bouleversant. C'est un livre choc qui rend hommage aux mineurs de façon universelle et plus encore qui porte une réflexion poussée sur la fraternité. Bonjour Sorge Chalandon.
Bonjour.
Quel lien vous relie aux mineurs de Liévin et au drame qui a fait 42 morts en 1974?
Ma colère de jeunesse, j'avais alors 22 ans.
Tout part de là ?
Tout part de là.
Et vous l'avez gardé toutes ces années-là ?
Je l'ai gardé, je l'ai un peu oublié pour d'autres colères, mais elle est revenue pour le 40e anniversaire de la catastrophe.
D'accord. Alors, droit dans les yeux, je vais vous dire ce que je pense de ce roman, parce qu'il y a trop d'émotions dans ce livre pour que je reste en retrait, Sorge. On en parle dans 3 minutes ensemble, d'accord ?
D'accord.
À tout à l'heure. Nous irons à Marie-Galante avec un reportage autour du poète Guy Tyrolien, dont nous célébrons en ce moment le centenaire de sa naissance en Guadeloupe. Un instant sonore à Marie-Galante en solidarité avec les Antilles. Les appels aux dons pour les Antilles sont nombreux. On fera d'ailleurs le point sur les besoins et sur vos contributions possibles. Et puis nous serons avec la Suissesse Corinne de Sarzan qui publie un roman philosophique sur le sens de l'amour et de l'engagement, sans oublier aussi l'actualité des livres de poche.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
4 libraires comme chaque semaine en multiplex. Pour représenter le Canada, il y a Jérémy Laniel de la librairie Carcajou. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Toujours bien, toujours bien.
Bon, très bien.
Oui, oui.
Mathieu Colombe pour la France est libraire, lui, à Aix-en-Provence, dans la librairie Goulard. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie La Licorne à Bruxelles et vous représentez donc la Belgique. Et enfin, Claire Renaud représente la Suisse. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Atmosphère à Genève. Merci d'être avec nous. Vous interviendrez bien sûr tous les quatre tout au long de cette émission. Bonjour Corinne de Sarzan.
Bonjour.
Avez-vous réussi votre vie amoureuse, Corinne ?
J'ai pas du tout aimé votre présentation, et c'est pas philosophique.
D'accord.
C'est réaliste,
concret. Si, moi j'ai trouvé ça très philosophique. Pas... Vous allez voir, on va citer des phrases de votre livre qui sont très philosophiques.
Si vous le dites.
Répondez à la question, s'il vous plaît.
La question.
Avez-vous réussi votre vie amoureuse ?
Évidemment non, sinon on n'écrirait pas.
Bon, c'est le thème de votre livre, hein, en substance, ça vous êtes d'accord ?
Le thème, non.
Non,
non,
bon,
non pas
bon,
vraiment.
On verra ensemble, ouais. On va batailler, je sens. On va décrypter tout à l'heure, mais on commence toujours par une histoire racontée par l'un de nos invités. Vous avez carte blanche, Corinne, vous avez bien réfléchi, je découvre en même temps que tout le monde. Allons-y, que voulez-vous transmettre ?
Je suis dans un restaurant au lac de Neuchâtel avec mon fils. Mon fils m'appelle « chère madame ». Il dit « vous êtes mon phare sur cette mer implacable et moi, je suis votre poussin indigne ». Une chose très importante, j'ai dans mon sac une carte du Lot-et-Garonne que j'ai récupérée de la poubelle au décès de mon père. C'est très très important pour l'histoire. Dans ce restaurant, il n'y a que des serveurs macédoniens, sauf un qui est chinois. Or, ce n'est pas du tout un restaurant chinois, on mange des choses locales. Et il vient entre les tables, il ondule comme un félin. Et à chaque table, il lâche un petit proverbe. Et il passe vers notre table et il dit « Le cœur d'une maman est un vase très profond où l'on trouve toujours le pardon ». Mon fils est horrifié parce qu'il sait très très bien que je vais poser une question à ce serveur et savoir pourquoi il a dit ça. Et puis surtout que je vais chercher à savoir d'où il vient et comment ça se fait qu'il est chinois. Il me dit « Tais-toi !» Ça vous arrange, j'ai 60 secondes. Là.
Et donc
il continue à onduler, il arrive et il me dit « Madame, je suis chinois, mais je suis de mère française et j'ai grandi dans le Lot-et-Garonne. » Et dans mon sac, il y avait la carte du Lot-et-Garonne.
Ah, incroyable.
Et c'est comme ça qu'un livre commence.
Ah oui, ça a l'air. Alors, juste une chose, votre fils vous appelle chère madame ?
Oui, j'aime beaucoup, oui.
J'aime beaucoup. Vous lui avez imposé ça ?
Pas du tout, c'est lui qui a choisi.
Chère madame, je vais plus vous appeler Corinne, je vais avoir du mal, du coup.
Et l'autre est encore pire.
L'autre, c'est quoi ?
L'autre, c'est mon autre fils.
Oui, oui, j'ai compris ça. Voilà. Il vous appelle comment ?
Oh là là, je vous dirai pas.
Si, allez.
Non, non, avec mon cher madame, c'est déjà bien. Non, parce que l'autre, c'est en VO, c'est en russe.
C'est en russe. Bon, d'accord. Ouais, bon, allez. Voilà. Ça promet. Corinne de Sarzan est dans la librairie francophone cette semaine. Sorge Chalandon aussi, avec Le jour d'avant paru aux éditions Grasset. Sorge, il faut qu'on parle. Ce roman, c'est l'un des romans les plus durs que j'ai lus depuis que je présente cette émission. Qu'est-ce que c'est dur ? Je vais pas essayer de faire illusion ou en tout cas de jouer la comédie de l'interview, je vais vous dire la vérité. Votre livre, il fait 326 pages. À la fin de la page 318, je me suis arrêté parce que c'était trop de souffrance, trop d'émotions, il y avait trop de choses et j'avais presque pas envie finalement de connaître les 8 dernières pages, donc la fin, la chute finale. Pourquoi ce livre, Sorge ? Pourquoi autant de souffrance ?
Parce qu'il y a la chute finale. J'espère que vous êtes allé finalement au bout.
Un mystère.
Mais c'est un personnage, Michel, qui me ressemble, qui est frère de mineur, ce que je ne suis pas. Ouais. Mais c'est un livre noir parce que c'est un moyen d'aller vers la lumière. C'est-à-dire, c'est un homme qui, toute sa vie, a vécu dans l'obscurité de la mort de son frère, mineur. Et moi, j'avais envie que l'on partage cette obscurité avec lui, au plus loin, au plus profond, jusqu'à la barbarie. Mmh. Et qu'on remonte tout doucement, comme si on remontait de la mine, petit à petit.
C'est Germinal Empire.
Alors,
Germinal.
Fait, voilà, oui, mais je cite Zola et Germinal dans la bouche d'un avocat général qui se moque de Michel, qui dit que c'est le Germinal du pauvre, ce qu'il a essayé de faire.
Ouais. Au début aussi, vous citez Zola.
Mmh. D'ailleurs, il le lit, mais il n'y arrive pas. Il le lit en prison et ce Germinal-là l'étouffe.
Alors, n'en dites pas trop, parce que si on parle du procès, on raconte tout le livre, on est obligé de raconter que la première partie. La deuxième partie est sublime. La première partie, c'est très compliqué. Moi, j'ai détesté au début, pour tout vous dire, parce que c'était trop. Et finalement, on adore votre roman parce qu'il faut le lire en entier.
Parce qu'il y a une deuxième partie et il y a l'aller vers la lumière dans les pages qui vous ont manqué.
Non, mais bon, je sais à peu près ce qu'il y a. Il y a tout le schéma, en tout cas, littéraire de Germinal. Une description détaillée technique de la mine. La mine qui devient un personnage à part entière. L'atavisme, le drame des mineurs de génération en génération. Et ces milieux populaires qui sont toujours les plus touchés dans ces cas-là.
Toujours les plus touchés, puis surtout ce qui s'est passé à l'époque, c'est lorsqu'ils étaient touchés, la France détournait les yeux, tournait la tête, on s'en fichait, c'est-à-dire que pour plein de Français dans les années 70, la mine est déjà morte. Donc lorsqu'un mineur meurt, c'est presque une surprise. Il y en a encore ? Bah oui, il y en a encore. Et là, il y a eu 42 morts, ça n'a pas été un drame national.
Alors c'était à Saint-Amé-de-Liévin.
À Saint-Amé, c'était à Liévin.
En 74.
La fosse 3 bis, le 27 décembre. Et la France a détourné les yeux, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu ces 42 morts, le président Giscard d'Estaing ne s'est pas déplacé. Il envoyait Jacques Chirac, qui revenait d'Afrique.
Premier ministre à l'époque.
Voilà, donc un homme bronzé face aux gueules noires, ça avait de la gueule. Mmh. Et tout le monde s'est rendu compte immédiatement que ça ne serait pas un drame national. Et aujourd'hui encore, lorsqu'on en parle avec les anciens, avec ceux qui ont vécu ça, ils disent « vous nous avez bien tourné le dos ».
Il y a Michel qui voit son grand frère adoré partir travailler à la mine. Personne ne sortira indemne de la mine de charbon, quoi qu'il se passe d'ailleurs, accident ou pas. Il y a les maladies derrière, vous le décrivez aussi. Et ça, tout le monde le sait, même dans les années 70.
On sait que lorsqu'un mineur sort de la mine, il est survivant, il n'est pas vivant. Mmh. N'importe comment, il rapporte la mine avec lui, il dort avec la mine, il vit avec la mine, il mange avec la mine et il termine dans des draps blancs. Bouffés par la mine, ils ont ce qu'on appelle les poumons de pierre, la silicose. Les médecins de la mine font absolument tout pour pas que ça sache, pour pas que ça se voit, pour pas que ça s'entende. Le médecin disait, il faut arrêter de fumer.
On vous connaît, Serge Chalandon, on sait que vous vous impliquez totalement dans vos sujets, Mon traître, Retour à Quilibex, Profession du père, là c'était plutôt personnel, Le quatrième mur aussi au Liban, c'était magnifique à chaque fois. Là vous en faites des tonnes, Serge, vraiment, c'est d'une émotion intense, absolue, on le lit par 40 pages, parce que enfin, en tout cas moi ça a été mon cas, il fallait que je m'arrête à chaque fois. Il y a cette relation entre les deux frères qui est bouleversante, on ne peut pas rester insensible face à cet amour, amitié finalement. Michel ne pourra pas vivre sans son grand frère, toute sa vie sera gâché par la mort de son frère.
Le journalisme m'apporte plein de choses qui nous salissent, des informations, des choses qu'on n'a pas envie de lire, qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on n'a pas envie d'écrire. Et dans le roman, j'essaye de placer des choses qui me manquent. La fraternité, elle me manque. La beauté, elle me manque. La dignité me manque. Le respect me manque. La grandeur me manque. Donc, c'est peut-être... Vous l'avez peut-être lu de 40 pages en 40 pages. Disons que moi, je l'ai écrit de 40 pages en 40 pages aussi. Ouais. Mais je savais qu'il fallait...
C'est vrai, vous l'avez écrit de 40 pages en 40 pages.
Bien sûr, parce que c'était insupportable. À dire, ce qui est insupportable, c'est de se retrouver dans les corons, dans la mine, avec ses gueules noires. Ouais. Et brusquement, il y a la porte de la chambre qui s'ouvre avec une petite fille qui dit « Papa, on dîne quand ?» Donc, heureusement que la vie fait irruption.
Oui. Vous l'avez écrit en pleurant ?
Il y a des scènes, oui. Mais peut-être pas les scènes les plus évidentes. Mmh. C'est-à-dire que les gens ne pleurent pas forcément là où l'auteur pleure. Mais non, moi, j'ai écrit des scènes en pleurant, juste parce que j'étais comme Calais, j'étais trop plein de larmes, il fallait pas trop me secouer.
Jojo, le frère de Michel, est un modèle. Sans lui, la vie ne vaut pas d'être vécue. Son frère, c'est son double, son confident, son refuge. Il y a une chanson de Jacques Brel que vous citez, c'est Jojo. Brel qui rend hommage à son ami frère, mort aussi en 1974, comme le Jojo de votre roman.
Jojo, je ne rentre plus nulle part, je m'habille de nos rêves. Orphelin jusqu'aux lèvres, mais heureux de savoir que je te viens déjà. 6 pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. 6 pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore.
Voilà, s'il vous manquait un peu d'ambiance pour connaître le livre de Serge Chalandon, on est en plein dedans. Tenez bon, hein, ça va aller, il y a la lumière aussi, on va le voir ensemble.
Je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a un jeune sur un salon du livre qui est venu me voir et qui m'a dit, j'ai mis de la musique funk sur la fin, et j'ai terminé au heavy metal, et ça passe très très bien. Donc j'ai été surpris, mais je pense que d'autres musiques peuvent aller avec avec ces mots.
La véritable histoire de votre roman, Serge Chalandon, c'est la fraternité. Vous analysez l'amour, le sens aussi de la fraternité.
Au sens large,
oui,
pas juste le frère.
Exact.
C'est vrai que c'est l'une des choses qui me troublait lorsque j'étais jeune et qui me trouble encore. C'est l'idée de ces mineurs qui remontent de la mine, qui sont nus dans la douche, c'est-à-dire une douche, c'est quoi? C'est une rigole avec des tuyaux, et que chaque mineur, chaque homme, frotte, nettoie le dos de l'homme qui est devant lui pour lui rendre la dignité avant qu'il prenne ses habits de ville et qu'il ressorte dans la rue. Cette dignité-là, je suis désolé, mais elle me manque. Alors comme elle me manque, je l'écris et je lui rends grâce.
On va voir si ça fonctionne du côté de nos libraires. Serge Chalandon, vous êtes d'accord?
Oui.
Les quatre ont lu votre livre. Les quatre, on commence par qui? La France, la Suisse, la Belgique ou le Canada?
Ah, c'est moi qui dois le dire?
Oui.
La Belgique, parce qu'ils ont été touchés par le bois du gazier, qui est aussi une catastrophe de mine.
D'accord.
Très dure.
Déborah Damblon, à Bruxelles.
Eh bien, moi, Monsieur Chalandon, ce qui m'a impressionné dans ce roman, et d'ailleurs dans tous vos autres livres, c'est la place absolue que vous laissez toujours à vos personnages. Chaque fois que je vous lis, ça me fait exactement le même effet. Je suis tellement en empathie avec vos personnages, tellement avec eux, pendant tout le temps de ma lecture, que ma propre vie en devient secondaire. Vous voyez, comme si je ne respirais plus. Et vraiment, ça fait partie des choses que j'aime le plus en littérature. Pouvoir vivre d'autres existences, aussi terribles soient-elles.
Voilà, vous l'avez ému. On va traverser l'Atlantique, histoire de vous remettre. On va au Canada, de Bruxelles, on part à Montréal. Jérémy Laniel.
Dans ce roman, on retrouve vraiment tout ce qu'on aime de Serge Chalandon. C'est-à-dire, c'est une écriture qui est précise, c'est concis, c'est évocateur. Même si, à mon avis, ce roman n'a pas la force narrative d'un quatrième mur, il est très difficile de ne pas aimer retrouver Chalandon comme on retrouve un vieil ami lorsqu'on retourne dans ces romans-là. C'est toujours un plaisir de le rencontrer à chaque rentrée. Vraiment, c'est un écrivain qui travaille une œuvre et on est en train de voir la grandeur de cette œuvre-là.
Oui, exact. Plus fort, moi, je dirais que Quatrième Mur, que j'avais adoré, vous le savez, Serge. Je suis pas d'accord avec Jérémy, mais c'est comme ça, c'est cette émission. Mathieu Colombe, êtes-vous d'accord, vous, avec Jérémy?
Globalement, je pense que j'ai une petite préférence pour le jour d'avant. Sinon, me concernant, j'ai vraiment été conquis par l'histoire de cette fraternité, de cet amour fraternel vraiment intense, par la chronique sociale qui est vraiment très très dure. Et ce que j'ai surtout aimé sur Chalandon, c'est que vous savez encore jouer avec le lecteur et vous savez l'étonner roman après roman. Bravo.
Je suis très gêné.
Ça va, Serge, ou pas?
Ouais, c'est émouvant. Enfin,
très ému.
Oui, parce que j'aime bien me battre. Donc là, j'ai l'impression qu'on marche tous ensemble vers le même endroit. Donc, nous sommes au coude à coude. On n'est pas les uns en face des autres. Donc, je suis un peu désappointé. Quoi.
On vous aime bien dans cette émission, vous savez. C'est vrai. Hein. C'est étonnant, mais c'est comme ça. On continue ou pas? Claire Renaud en Suisse, vous voulez?
Bien sûr.
Allons-y, Claire.
Oui, votre roman est très, très poignant. On est touché d'emblée par ces destins brisés. Comme d'habitude, vu mon âme sensible, j'ai pleuré en vous lisant. Mais il y a ce coup de grisou, ce retournement de situation, et je me suis un peu distancée, j'ai trouvé la charge un peu lourde. Mais comme vous êtes aussi un grand écrivain, vous réussissez en tour de force littéraire.
Bon.
Non, mais c'est
difficile d'enchaîner parce qu'ils sont très émus, je les vois rarement comme ça, les libraires, aussi émus, aussi posés comme ça.
Non, ce qui m'intéresse, c'est que je ne voulais pas écrire un tract. Je voulais pas, 40 ans après, faire un roman pour dire il y a eu 42 morts et c'est dégueulasse. Donc moi, ce que je voulais, c'était rendre hommage aux 42 morts. Et je ne voulais pas abîmer ce qui est sacré, c'est-à-dire cette date, ses faits.
Et la mémoire.
Et la mémoire.
De
donc,
chacun.
Et quand il passe, je ne dévoile rien, je ne divulgage pas la fin du film. Mais lorsqu'il sera amené à se justifier devant un tribunal, c'est un peu comme si moi, je devais me justifier aussi. De quel droit est-ce que j'ai écrit un livre sur la mine?
C'est ça.
De quel droit est-ce que je parle des mineurs? De quel droit ce n'est pas mon pays d'origine?
C'est pour ça que je vous posais la question, voilà, dans le générique, parce que c'est très très intense, c'est très incarné. Oui. Effectivement, de quel droit vous faites mourir toutes ces personnes, parce que votre personnage perd tout le monde. Son frère meurt, son père se suicide par pendaison, il perd sa mère, sa femme meurt d'une grave maladie sous ses yeux, il l'accompagne jusqu'au dernier souffle.
Parce que
ça n'en finit jamais.
Oui, mais plus que leur mort, je voulais qu'ils soient seuls. C'est rendu absolument solitaire qu'ils pouvaient retourner au pays, retourner chez lui, pour, croit-on, se venger.
Ouais.
Et en fait, parce que c'est ça qui pour moi est important, le retournement dont on ne parlera pas, mais dont on parle à demi-mot, c'est qu'on pense tenir entre les mains un livre sur la vengeance, et en fait on lit quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilité.
Exactement. Il y a une phrase terrible qui finit d'achever le lecteur, même si on n'est que dans la première partie du roman. C'est la mère de Michel qui vient le voir alors que son frère est mourant à l'hôpital. Elle lui dit « Tu vas me faire une promesse, Michel. Ne fais jamais d'enfant. S'il te plaît, c'est trop de souffrance. »
Oui.
On ne sait qu'à la fin pourquoi elle a dit ça,
oui,
car on va tout comprendre. Mais elle est terrible, cette phrase.
Oui, je pense que c'est un peu ce que...
Vous avez hésité à faire des enfants, vous?
Je crois que mes parents auraient mieux fait d'hésiter un petit peu.
Ça vous revenait à la profession du père.
Absolument. Mmh. Mais moi, étant guéri de cela, j'ai fait mes enfants avec bonheur, mais je pense qu'eux auraient dû réfléchir.
Bon, pourtant, vous êtes là et vous faites de beaux livres.
Oui, voilà, mais je pense qu'un permis d'enfant, comme un permis de conduire, pourrait être nécessaire dans certains cas.
Vous vivez avec la mélancolie?
Je vis avec la tristesse des rendez-vous manqués. Mmh. Voilà, j'ai manqué mon père, j'ai manqué ma mère. Enfin, je vis avec la tristesse des choses constitutives de mon socle, c'est-à-dire l'absence.
Les rendez-vous manqués, on va en parler. Vous allez rester avec nous parce que c'est le livre, entre autres, de Corinne de Sarzan tout à l'heure. Merci beaucoup, Sor Chalandon. Le jour d'avant est paru aux éditions Grasset. À vous qui nous écoutez de vous faire une opinion à travers le monde. Nous, on est déstabilisés par ce livre. Vous l'avez compris, c'est un roman fort qui va bousculer votre quotidien. À suivre l'actualité des livres de poche avec un roman étonnant signé Pia Petersen, une auteure danoise francophone, un reportage à Marie Galante et les coups de gueule et coups de cœur de nos libraires. Avant cela, voici un bijou musical signé Paris Bamako, avec des artistes très connus, à vous de les reconnaître. Tout le monde joue en plateau. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Tout n'est pas si blanc, tout n'est pas si noir. Ce serait trop facile de croire à cette histoire. Tu n'es pas si blanc, tu n'es pas si noir. Mon cœur a la même couleur dans ton regard.
Town, heart is just where I go. Feel it from your head to toe. Love is really all we know. Body to Bamako, 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 body. Say body to Bamako,
and for justice, and for peace, and for struggle, for the trouble.
We cutting, we just keep chucking. Guitar keeps clucking, the melody stuck in your head like locking. The dread keeps clucking, the system and bucking them down like nothing. And so we unite, Barry to Bamako, universal fight. If you causing strife in the name of right, you are neither black, you are neither white. Hitting on the dusty for philosopher, stay right.
Barry Bamako, Barry Bamako, rencontre tissage, c'est le bonheur.
Et y'en a marre des rues de Paris. C'est sens interdit, j'ai compris trop de choses, des connaissances interdites. Le froid tire tes orteils, ça klaxonne dans l'oreiller. Les gens se suivent pas les jours ensoleillés. Je suis plus loin que l'espoir, même de l'autre côté. Mes pages ont plus de sens qu'un carrefour, écoutez.
Nous allons vous raconter une histoire. Des rencontres entre des gens pour aider.
En nombre à Paris, Bambena Bamako.
Vive la solidarité entre tous les peuples.
Chacun de nous vaut un trio. Prix Nobel, Pacifix, discours, c'est du sirop. Tentez chanter pour changer le monde.
Bamako, avec, qui a trouvé, sans Chalandon.
M.
M, Corinne de Sarzan, bravo. Ensuite.
Je dirais Bourville, Bert Silva. Je
suis pas Bourville. Mais non.
Mais non, mais je connais pas, je connais pas. Je connais pas. Je n'écoute
mais si.
Que. Mais non, c'est vrai, j'écoute du baroque et j'ai beaucoup de mal là. Il y avait M,
effectivement, Amadou et Mariam, Tiken Jaffa Coli, Oxmo Puccino et Kenan.
Ah, Kenan, d'accord.
C'est le bonheur sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS, la première.
RTBF, la première.
Ici, Radio-Canada, première.
France Inter.
On parle de l'actualité des livres de poche dans cette émission régulièrement afin de conseiller des livres pour tous les budgets. Aujourd'hui, focus sur la Danoise Pia Petersen. Bonjour Pia Petersen.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans la librairie francophone. Vous êtes une auteure francophone, originaire du Danemark. Vous vivez entre Paris et Marseille. Après 7 romans remarqués par la critique, vous publiez Un écrivain, un vrai, chez Actes Sud. Vous imaginez une émission de télé-réalité autour d'un écrivain à succès, un certain Gary, écrivain connu, reconnu. L'objectif des producteurs, c'est que la littérature retrouve un peu de vitalité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette émission ?
L'idée, c'est qu'on amène la littérature au plus près des gens. Et là, effectivement, qu'est-ce qui est mieux indiqué que la télé-réalité ?
Ah, vous pensez, vous ?
Non, personnellement, non, je ne pense pas. Disons qu'il y a plusieurs facettes dans le roman. Ouais. Je pense que nous vivons en permanence dans une télé-réalité. Je ne pense pas qu'on y échappe. Je pense que la télé-réalité n'est plus confinée qu'à la télé-réalité. La télé-réalité, c'est dans la société, le Twitter, le Facebook et tout ça. Ouais, c'est une forme de performance de soi en permanence.
Alors les producteurs, ils vont plus loin, et c'est là que ça dérape en fait, parce qu'on imagine un feuilleton télévisé, tourné comme ça au fur et à mesure de l'écriture de l'histoire, et Miles, le super producteur, dira « c'est magnifique, les lecteurs n'auront même plus besoin de l'objet livre ». Et tout est là, Pia Petersen, le vrai débat actuel, le débat réel, c'est celui-ci, la légitimité de l'objet livre. Alors avec les tablettes numériques déjà, on peut provoquer sa disparition. L'objet livre est-il nécessaire aujourd'hui ?
L'objet livre en papier, ça je ne sais pas, mais l'objet livre en tant que trace, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une trace qui ne puisse être changée. Le livre de papier, on ne peut pas le changer. Il existe, il est là, vous l'avez, il ne bouge pas. On peut le retrouver 3 siècles plus tard. Tout ce qui est parole, ça disparaît immédiatement. On se souvient de ce qu'on veut bien se souvenir.
Le numérique aussi, ça peut
le
disparaître.
Le numérique aussi, puisque sur le numérique, vous pouvez intervenir encore et encore et encore sur les livres et vous pouvez changer, donc vous n'avez plus de livre fixe.
Et si les écrivains devenaient des hommes d'affaires ? C'est la question qui est posée par le producteur de cette émission de télé-réalité, émission de télé-réalité littéraire, hein, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent. Alors il y a un peu de vrai hein, dans cette phrase, parce qu'on le voit avec la rentrée littéraire ou lors de la course au prix.
Oui, tout à fait.
Vous avez l'impression, vous, Pia Petersen, de créer un produit parfois ?
Bah oui, je me sers de ça, évidemment. Ah oui, je fais des clins d'œil franchement plus que lourds hein, à ce niveau-là.
On pourrait croire que vous-même, vous voulez créer un événement, un buzz, comme on dit, et faire un produit. Votre livre est peut-être un produit.
Je crois que quand on écrit et quand on le donne à publier, c'est qu'obligatoirement, on veut être lu. Ah, c'est pas un livre qui fait de la morale, quelle qu'en soit la manière du tout.
On veut être lu ou on veut vendre ? C'est pas pareil.
On veut être... on veut être lu et on veut. Ah, moi, je voudrais bien vendre aussi. Ouais. Hein, c'est pas. Je suis pas personnellement, j'irai pas dans une télé-réalité, mais je ne porte pas de jugement de valeur du tout. Je sais que personnellement, j'aime bien utiliser des ficelles un peu grosses pour mes livres parce que je peux y nicher une réflexion, une vraie démarche de la pensée que je ne pourrais pas faire autrement.
La liberté du créateur, jusqu'où peut-on aller? Alors Ruth demande à son mari d'être moins littéraire pour contenter le public. Vous croyez comme ça que le public est réfractaire à ce mot littérature, que c'est une question d'éducation, peut-être un traumatisme lié à l'école ou à certaines émissions de télé ou de radio?
Si vous suivez bien tous les débats qu'il y a en ce moment sur le livre numérique, il y a quand même quelque chose qui m'étonne assez souvent, c'est qu'on n'entend jamais parler de l'écrivain. Et si on n'a plus de littérature, si on n'a plus de philosophes, mais qu'est-ce que va devenir le monde ?
Et le roman de Pia Petersen, un écrivain, un vrai, paru en poche chez Babel Actes Sud. La chronique des libraires dans cette plus grande librairie du monde, tous ensemble pour les coups de gueule et les coups de cœur. Claire Renaud pour la Suisse, un coup de gueule à propos d'une auteure turque dont tout le monde parle en France en ce moment.
On parle beaucoup d'Asli Erdogan, en sursis avant un prochain jugement. On parle de son courage, de son combat pour la liberté d'expression. Et pour moi, on ne parle que très peu de son énorme talent littéraire. Mmh. Son écriture est magnifique, pleine de métaphores et de poésie. Une écrivaine qui se renouvelle est une grande écrivaine. Et s'il vous plaît, ne la réduisez pas uniquement à son combat.
Oui, grande écrivaine turque, hein, l'une des plus importantes, qui a été mise en détention, qui a perdu son passeport, qui l'a retrouvé. Finalement, elle a réussi à se faire remettre des prix littéraires en France. Et puis, il faut savoir que la prochaine audience de son procès doit avoir lieu le 31 octobre. Et elle risque la prison à vie, Asli Erdogan. Il faut soutenir évidemment la cause, sa cause et puis celle aussi de ses compagnons hein, qui sont incarcérés, eux également. Merci beaucoup Claire. Jérémy Lagnel, parle-t-on d'Asli Erdogan au Canada?
Absolument, mais pas assez à mon avis. On s'en intéresse pas assez à mon avis. Ouais. Comme plusieurs nouvelles internationales, on a toujours un petit chauvinisme et on s'intéresse à ce qui se passe de ce côté-ci de l'océan.
Mais oui, bon, quand même.
On a tous son défaut. Hein.
Oui, quand même. Les Canadiens sont très ouverts sur le monde. Un coup de cœur, justement, tiens.
Absolument.
Québécois.
Coup de cœur pour le deuxième roman de Michaela Nicole, publié au Chevaldo. Michaela Nicole revient avec un deuxième roman dans lequel elle poursuit son travail sur la langue, sur les ambiances. Avec elle, tout est style. Vraiment, de cette histoire de violence dans le couple, de jeu de pouvoir entre hommes et femmes, en plein cœur d'un été suffocant, elle parvient à créer des scènes là, au rythme excessivement lent, où le détail, la véracité des regards, ça suffit vraiment à nous faire dévorer les pages. On en arrive à la conclusion qu'on assiste, je crois, là, à la naissance d'une écrivaine.
Eh bien, dis donc, Aphélie, aux éditions Cheval d'Août, le conseil de Jérémy Lagnel. Autre coup de cœur en Belgique avec vous, Déborah Damblon.
Et oui, pour une auteure que j'aime beaucoup, 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 Mélanie Ruten. Et je l'aime, entre autres, parce qu'elle crée des mondes. Elle a vraiment ses propres univers, presque même son langage, sa façon de parler. Et puis, ce que j'aime aussi chez elle, c'est qu'elle ne s'embarrasse pas de convenances. Et ça, c'est vraiment important, je trouve. D'ailleurs, dans son dernier album, qui s'intitule Ploc, eh bien, on est à la fois dans le livre cartonné, vous savez, qu'on destine nos petites mains.
Pour la jeunesse,
et puis,
oui.
On a une histoire plutôt longue, et ça c'est plutôt pour les plus grands. Et ce qui est formidable, eh bien, c'est que ça fonctionne avec les enfants. Alors voilà enfin un livre qui va durer longtemps.
Ploc de Mélanie Ruten aux éditions Mémo. Mathieu Colombe, un coup de gueule dans un autre rayon que la jeunesse, on parle dans le rayon des livres de cuisine avec vous.
Exactement, et mon coup de gueule va porter sur en fait une collection simplissime,
ouais.
Des recettes très très faciles, c'était un très bon axe, ça a vraiment très bien marché. Mais sur l'hôtel de ce succès, Hachette, depuis 2 ans, décline la recette sous différentes formes. Il la décline tellement qu'il y a eu 25 titres parus depuis mars 2016. Ça fait beaucoup.
Toujours dans la cuisine.
Toujours dans la cuisine. Le premier a très bien marché, les autres ont moins bien marché. Donc ce serait gentil de arrêter de nous en envoyer plein, parce que ça prend de la place pour rien.
Ouais. Les œufs simplissimes, les cakes simplissimes, tout ça, c'est ça ?
Tout ça est simplissime.
Bon, merci Mathieu. Et on part à Marie-Galante à présent, au large de l'île de la Guadeloupe. Nous sommes allés sur les traces du grand poète Guy Tyrolien, dont nous célébrons le 100e anniversaire de sa naissance en cette année 2017. Nous avons retrouvé son épouse dans sa maison, sur les hauteurs de l'île. Un reportage que vous avez peut-être écouté cet été dans la librairie estivale. En voici une nouvelle version en guise d'hommage à Tyrolien, mais aussi en guise d'amitié et de solidarité avec les Antilles, dévastées par les ouragans. On pose le pied sur le sol de Marie-Galante après 45 minutes de traversée depuis le port maritime de la Guadeloupe et l'arrivée donc sur l'île de Marie-Galante avec un dégradé de bleu, le ciel bleu bien sûr avec quelques nuages fragmentés là au-dessus de nous et puis dégradé de bleu turquoise sur la mer. Et on est sur le petit port de Marie-Galante avec quelques bateaux, une vingtaine de bateaux seulement.
Bonjour.
Comment Max ça va? Ripon, bienvenue à Marie-Galante, bienvenue sur les terres de Guy Tyrolien et de la mienne.
Où va-t-on là, Max?
Nous allons aller vers la maison familiale où il est né, enfin où il a grandi. Elle est construite en 1903.
Ah oui, avec quatre fenêtres encadrées de pierres de l'époque et puis juste un seul étage. Ouais. Max Ripon, vous êtes auteur, hein, vous-même auteur né ici à Marie-Galante, auteur de romans, de poésie, en français et en créole. Et vous dites qu'il faut de l'énergie pour comprendre Marie-Galante. Quel type d'énergie il faut?
Il faut déjà être soi-même et en paix avec soi-même. Pour rester ici et accepter le temps de l'étiage. Quand on est dans le pays, on prend la cadence du pays. Et ma voiture est garée, elle n'est pas bien garée. Elle ne gêne personne, elle est garée parce qu'on fait quelque chose. Tout le monde sait qu'on fait quelque chose et personne ne nous énerve.
Elle est un peu garée n'importe comment.
Enfin, elle est garée. elle est plutôt égarée dans la rue. Mais en fait, personne ne nous fait la gueule, etc. Et tout. Je crois que c'est cette gentillesse-là qu'il faut qu'on arrive à préserver, que dans nos écritures, dans nos poésies, nous mettons en place, parce que nous sommes déjà porteurs de cela, de cette paix-là, donc on peut la diffuser. Nous prenons la route qui mène chez Guy Tyrolien. Bordé à gauche par des flamboyants. On est dans la forêt sèche, avec des acacias, les campéchiers et les tourterelles. Voilà, ben nous arrivons à 50 mètres de la maison Tyrolien.
Avec la mer qui est juste en face, on arrive sur une colline. Et on domine tout Marie-Galante ici. Il y a un chien déjà.
Mais le chien, il est poli.
Regardez-moi ça. Oh là là, oui. Alors voilà, effectivement, là on surplombe Grand-Bourg, puis toutes ces maisons, les maisons créoles, hein, qui sont là typiques. On les voit d'ailleurs avec les toits blancs.
Et souvent, Guy me disait, Guy Tyrolien, que revenir ici, écrire, c'est un besoin pour compenser quelque chose. Quand il n'y a rien à compenser, on est en paix, en sérénité. Comment on ne peut que rester là contemplatif, je veux dire, hein, quand on a ça. L'horizon est déplacé. À chaque fois qu'on réfléchit, on le repousse, cet horizon-là.
Sur une grande terrasse avec des arcades, arcades blanches, une maison qui surplombe donc cette baie de Grand-Bourg.
La jeunesse nous accueille.
Comment vas-tu? Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame. Enchanté. Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va, je te remercie. Voilà, j'ai amené ces intrus jusqu'à toi.
Eh bien, c'est bien.
Guy Tyrolien avait cette conscience, d'ailleurs, de la poésie, évidemment, mais la conscience du son, celle qui fait de la poésie un modelage de la langue. Il disait que, avant même la poésie, avant même le son, c'était la musique qui l'intéressait, c'était la musique qui le portait.
Le rythme. Et mon mari, c'était un mélomane. Il aimait beaucoup la musique, notamment la musique de jazz.
Alors c'est vrai que dans ces vers, il y avait des allitérations, des assonances aussi. Par exemple, « Griot glapit ton chant strident, voici volant le cri des circoncis, la polyrythmie tendre des pilons. » Ou alors, « Émaras, aussi vivace que l'acacia coriace qui pousse à Saint-Domingue », que vous connaissez par cœur.
Enfin, je connais quelques vers comme ça, ça me revient.
Alors Thérèse, Guy Tyrolien participe à l'ébullition de la négritude qui aboutit à la création de Présence africaine. Et de 1944 à 1960, il est administrateur de la France d'outre-mer en Afrique. Et alors il est fait prisonnier des Allemands hein, pendant la guerre. Oui. Et en 1942, donc, il est libéré. Mais en 1940, dans le Stalag, où il est prisonnier, il rencontre quelqu'un d'autre, très important, c'est Léopold Sédar Senghor.
Oui. Sa première rencontre en France a été avec Damas. Et Damas lui avait parlé déjà de Senghor et de Césaire. Et là, il a rencontré Senghor pendant 2 ans. Donc, ils ont pu discuter, échanger. Et Senghor lui a parlé déjà de ce qu'il avait déjà écrit. Et puis, à la libération, ils se sont retrouvés à Paris. Et c'est à ce moment-là que Senghor lui a présenté Césaire.
Et c'est vrai que votre époux, Guy Tirolien, va participer. Alors, on le sait moins parce qu'on connaît Césaire, on connaît Senghor, mais il va participer donc à la négritude, ce qui va aboutir aussi au lancement de ce concept, hein, la francophonie. Donc, il est à l'origine, il participe à tous ces travaux.
Oui, il participe. Et à Paris, il a fait la connaissance d'étudiants africains, dont un, Sylvain Sakalé. Et c'est ensemble d'ailleurs qu'ils sont rentrés en Afrique.
Tirolien va écrire assez vite de la poésie. Alors il est l'auteur d'une poésie célèbre, Prière d'un petit enfant nègre. C'est une poésie qui raconte l'histoire d'un enfant nègre qui ne veut plus aller à l'école. De quelle école parle-t-il exactement?
Eh bien de l'école que nous avions en Guadeloupe, l'école française, qui nous parlait des choses qui n'étaient pas d'ici. Voilà. Seigneur, je suis très fatiguée. Je suis née fatiguée et j'ai beaucoup marché depuis le chant du coq et le morne est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois où glissent les esprits que l'aube vient chasser. Je veux aller pieds nus par les rouges sentiers que cuisent les flammes de midi. Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des Blancs. Mon mari était vraiment, je pense, un humaniste avant tout. Et il avait confiance en l'homme. Et voilà, donc c'est un monde nouveau, c'est un monde qui a un avenir certain. Mon mari croyait fortement. Et voilà.
Je crois que Guy Tirolien a construit beaucoup de nos réflexions en Guadeloupe et ça, c'est important.
Très bien. Merci beaucoup. Merci Thérèse Tirolien de nous avoir accueillis ici. Merci pour votre accueil chaleureux avec cette vue magnifique.
Merci d'être venu chez nous.
On est ravis.
Pour évoquer un peu quelques souvenirs concernant Guy.
On est ravis. On va continuer à faire vivre sa mémoire à notre façon. Merci beaucoup. Et depuis le tournage de ce reportage et les événements climatiques récents, nous avons évidemment pris des nouvelles de Thérèse Tirolien. Sachez que tout va bien pour elle, sa famille et sa maison. Donc on est tous rassurés. Les appels à la solidarité pour les Antilles sont toujours en cours. L'Alliance française de la Dominique installée à Roseau a été dévastée comme la plupart des bâtiments de la ville. Elle lance un appel et une collecte. La Fondation de France, le Secours populaire et la Croix-Rouge française récoltent tous vos dons pour l'ensemble des sinistres aux Antilles. On vous laisse tous les liens sur le site internet de l'émission. À suivre le nouveau roman de l'auteur suisse Corinne de Sarzan. Avez-vous déjà manqué l'amour de votre vie? Si c'est le cas, vous restez. Si c'est pas le cas aussi, on philosophe sur ce sujet dans un instant. Voici Lady Sœur dans la librairie francophone.
Je rêve d'ailleurs féerique. Je rêve d'ailleurs atmosphérique.
Oui, ne t'hack ou ne pki. Ma hbébi, fajna. Fajna, farhba. D'arafin ou zéhi.
Je rêve d'ailleurs de villes constellées. Je rêve d'ailleurs de pays safranés.
Oui, ne t'hack ou ne pki. Ma hbébi, fajna. Fajna, farhba. D'arafin ou zéhi. De Rio à Santiago, de Ouaga à Mar-
terres inconnues. Je rêve d'ailleurs, d'ailleurs et d'imprévu.
Oui, notre hack, on a qui ma baby, fais-je
avec Gaëtan Roussel et Rachida Brakni, Je rêve d'ailleurs, sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Corinne de Sarzan est dans la librairie cette semaine pour son nouveau roman Le soutien-gorge noir, paru aux éditions de l'Air. Alors Corinne, vous racontez une histoire d'amour, à la fois délicate et impossible, entre Monique, une laborantine, et Joseph, un œnologue hongrois. On est juste après la guerre, ils se rencontrent dans le laboratoire de Monique. Le vin et l'amour se mélangent dans votre roman, comme une alchimie. C'est ça ? Vous mélangez le vin et l'amour, vous.
On est dans un studio sombre et noir, et c'est comme ça qu'elle a rencontré pour la première fois cet œnologue.
Il a éclairé le studio.
Un laboratoire sombre. Oui. C'est très important.
Oui. Comme le vin parle avec sa robe, sa couleur et son odeur, vous dites que le corps parle si on le laisse faire. Il sait exactement ce qu'il veut. Il n'y a pas de parole plus honnête ni plus précise.
Bien sûr. Cet Hongrois est arrivé en 48 après la guerre et ils étaient très jalousés en Suisse parce qu'ils avaient des manières de seigneur. Mmh. Donc c'est pas seulement une question de vêtements, de choses comme ça. On sait qu'il leur est arrivé des choses terribles, mais moi j'ai pas envie de parler de choses terribles parce que il y en a plein. Voilà, j'avais envie d'admirer quelqu'un. Lui, il était il avait un escadron de 400 chevaux qui gelait pendant la guerre.
Ouais.
Et il les voyait comme des statues avec la bouche pleine de neige.
Ouais.
Il était très attaché à ça. Mais Joseph s'appelait. Et voilà.
Mais son corps parle? Le corps
son
de Joseph
corps
parle.
Parle? Il a dit oui, et puis le corps de Monique aussi. Mais ça se fait pas.
Non, ça se fait pas. Alors pourquoi il parle,
par contre,
Joseph?
Par contre, il y a justement un mot qui est le déclencheur de toute cette histoire. Mmh. Un mot, il faut vous accrocher parce qu'il est spécial. Il est dit en allemand.
Ouais.
Alors c'est Briefrachtel Schlitz Beglückungsbeamte. Ce qui veut dire l'employé chargé de faire jouir la fente des boîtes aux lettres.
Bien. Pourquoi,
et
pourquoi,
on peut
Corinne
résumer ça en un seul mot, le facteur. Et le facteur a été la personne la plus importante de leur vie.
On va faire deux choses, Corinne. Déjà, vous allez fermer ce carnet où il y a plein de notes, parce que sinon vous n'allez jamais répondre à mes questions.
Je répondrai, je le jure.
Et vous allez me dire pourquoi Joseph part, pourquoi Monique refuse. Vous écrivez, oui, on veut tous l'amour,
oui,
mais
oui,
quand il se présente,
bien
on freine.
Bien sûr, mais bien sûr.
Pourquoi? Non,
mais bien sûr. Puis d'abord, c'est pas Joseph, c'est Joseph.
Oui, d'accord. Bah, Joseph, pourquoi
non,
il s'en
non,
va?
Non, non, vous prononcez mal. Joseph. Déjà le
Serge Chalandon.
Déjà,
comment prononce
Joseph.
Joseph.
Bien.
Joseph.
C'est du hongrois, hein, voilà.
Vous écoutez la librairie francophone.
Déjà, le Hazli Erdogan m'a beaucoup choqué parce qu'on dit Hazli, on dit pas Hazli.
Oui, exact.
Hein, là, bon, voilà.
Bien.
Joseph.
Pourquoi cette histoire ne se fait pas?
Donc, elle avait peur. Elle voulait la sécurité.
Oui.
Il n'y avait pas encore Sarkozy à l'époque. Elle voulait.
Il n'est plus là.
Elle voulait. Oui, il n'était pas encore là.
Bon. D'accord.
Elle voulait la sécurité. Voilà. Et Joseph, c'était l'inverse.
Eh oui.
c'était, même si c'était après la guerre, tout n'était pas réglé dans ces pays. Hein. C'était des villes glaciales, froides. Enfin bon, toutes les images que vous avez vues sont vraies. Il n'y a pas de chaussures.
Mais c'est terrible, Corinne de Sarzan, parce que on va suivre l'histoire jusqu'aux années 2000. Et les deux, Monique et Joseph...
Joseph, voilà, misérable.
...vont entretenir une relation par correspondance.
55
toute
ans.
Toute la vie, 55 ans, avec oui. cette frustration de l'absence.
Oui. Ce qui est le plus bouleversant, c'est que c'est ce qui ne s'est pas passé. Et dans beaucoup d'autres histoires, c'est aussi ça. Ce qui ne s'est pas passé bouleverse le plus. C'est-à-dire une vision fugace, et vous savez très bien que vous la, ou le reverrez jamais. Mais c'est ça qui reste jusqu'au bout.
C'est ça que vous appelez la nostalgie du possible.
Oui, bien sûr.
La vie qu'on aurait pu vivre et qu'on n'a pas vécue.
Mais bien sûr. Parce que finalement, ce qu'on n'a pas vécu finit par vivre quand même.
Ouais, enfin, on ouais, est déçus, bon, non On a plein de regrets.
Oui, mais là, il y a aussi le point de vue de l'homme. Hein, ouais. Là aussi, qui veut obtenir des choses, qui veut vaincre. Joseph était un magnifique athlète, nageur, alpiniste. Il a réchappé à beaucoup d'accidents et tout ça. Mais il y avait justement ce côté délibéré. Non, il a accepté de ne pas pouvoir l'avoir.
Ouais. Vous êtes amoureuse de Donc, Joseph ?
Moi ou, ouais. ou elle ?
Vous.
On peut dire, oui.
Bah oui, vous ne parlez
oui,
que
oui, oui.
Bon, on va laisser la place à notre multiplex, à travers la francophonie, Corinne de Sarzan, avec nos libraires. Déborah Damblon pour la Belgique, un peu désarçonnée par cette lecture.
Oui. Un peu désarçonné, c'est le mot, Emmanuel. J'ai vraiment une curieuse impression en vous lisant, madame. Curieuse, mais pas désagréable, hein, je vous rassure. Et même plutôt originale. J'ai eu l'impression que vous, auteur, eh bien, vous restiez comme volontairement extérieur à votre récit. Pas tout à fait impliqué. Mais j'ai trouvé ça très joli. Et ça permet, d'après moi, de dire avec délicatesse des vérités douces et des vérités plus dures.
Claire Renaud, en Suisse, vous voulez rebondir?
Oui, exactement. Alors, d'abord, j'ai beaucoup aimé comme vous maniez les non-dits. Et puis, vous avez une poésie de la langue qui est magnifique, parce que moi, je me suis surprise plusieurs fois à réciter à haute voix vos passages. Par contre, je rebondis sur Déborah, c'est que, à mon goût, il y manque justement de la chaleur humaine. Et j'ai ressenti une distance entre vous et vos personnages.
Donc, je suis un monstre froid, très lointain.
Personne n'a dit ça.
C'est pour ça que mes enfants m'appellent chère madame.
Oui, c'est... Non, peut-être, voilà. Peut-être. Non, bon, on va voir du côté non. de Jérémy Laniel au Canada qui n'est pas d'accord. Jérémy.
Mais moi, j'ai une relation d'amour-haine avec ce livre. Hein. Au départ, la Hongrie, l'époque historique, ça me rebutait. Puis arrive un moment, un éclat. Hein, celui de votre écriture. L'amour par correspondance avait tout pour me plaire, mais cette même écriture qui m'a tantôt hameçonné au départ, ben, elle m'a parfois chicoté, un jeu de surremise de style qui ne fonctionnait pas toujours. Reste que nous sommes là, loin d'un livre banal, ce qui est déjà pas mal.
Oui, exactement.
Merci, comment vous appelez, Jérémy, pour le verbe chicoter.
On ne dit pas chicoter en Suisse.
Non, on ne dit pas.
Ah non.
Mais pour moi, c'est vrai, les mots sont tellement importants. Quand on me fait le cadeau d'un mot, c'est le plus beau cadeau de la journée. Ce matin, j'ai appris faire reluire l'abricot, se faire reluire l'abricot. Alors, je ne connaissais pas.
Qu'est-ce que c'est que
bon,
ça,
mais il y aura reluire. Un lien avec l'autre aussi, voilà. Hein, voilà.
Sors Chalandon est mort mais de rire, il doit savoir.
Mais c'est juste magnifique.
Il va nous donner la définition.
Hein, là aussi.
Sors se faire reluire l'abricot?
Non, mais je pense que c'est quand ça arrive. Donc, c'est ce qu'on regrette voilà. toute sa vie quand ce n'est pas arrivé.
Oui,
je pense.
Voilà, c'est ça. Mais là, voilà, magnifique. Là, je vois une petite jeune fille, alors elle voulait de la beuh et de la thune, donc on comprend déjà dans quel milieu elle évolue.
Ouais.
Et elle hurle au téléphone. Je me dis, mais à qui elle parle, son petit ami? En fait, c'est à sa mère. Ouais. Elle lui dit, ton serpent, il marche à l'envers.
Très bien, on va arrêter là, Corinne. On va revenir sur votre livre.
Mais j'étais juste... Oui, oui, voilà.
On a une heure de grande écoute, je ne sais pas où vous allez, mais vous allez très loin.
Oui, oui.
En tout cas,
c'est pour ça que je suis un monstre froid. Les gens n'aiment pas mes livres, mais c'est pas grave.
C'est pas vrai, ils n'ont pas dit qu'ils n'aimaient pas votre livre. Ils sont perturbés.
Oui, bah, tant mieux.
Le cadeau des mots, vous nous en offrez aussi, des mots et des phrases, avec beaucoup de réflexions philosophiques.
Oui.
C'est pour ça que je parlais d'un livre philosophique.
C'est vous qui êtes responsable de votre philosophie. Hein,
d'accord.
Là, oui.
D'accord.
Il y a beaucoup de mots que j'évite, et puis pour moi, 10 mots sur 12 sont inertes. Donc il y en a certains qu'il faut supprimer.
Il y a Joseph à
Joseph.
Joseph qui dit une chose très importante sur l'amour et sur notre rapport aux autres.
Dites-moi.
Il dit on n'aime plus personne dès qu'on aime une seule personne.
Bien sûr.
Ça vous tient à l'écart et on n'a plus rien à se dire.
Bien sûr, les autres sont exclus, c'est clair.
C'est génial ça.
C'est génial.
Je trouve, oui.
Ouais, tant mieux.
Comme phrase, non ?
Ouais. Oui, oui, je suis d'accord.
C'est vous qui l'avez écrite en même temps.
C'est ça. Non, puis il y a aussi cette phrase aussi sur la solitude. La solitude est ce que l'autre perd de ne pas être à côté de celui ou de celle qui l'éprouve. Ouais. Ça, je trouve que c'est magnifique.
Il y a des choses non dites, des silences. On n'exprime pas tout. Et on n'a pas le choix, finalement. C'est ça que vous dites aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas communiquer aux autres. Des secrets très intimes ou des choses qu'on n'arrive pas à formuler.
C'est vous qui le formulez bien. Voilà. Je vous mets un tapis de rose sous vos petits pieds.
Merci, Corinne. Ouais. On va terminer avec l'une de vos citations, l'un de vos personnages qui dit « Je pense qu'il y a trois mémoires. De ce qui n'a jamais été, le fantasme. De ce qui a été vraiment, la vérité. De ce qu'on n'a pas pu recevoir, la réalité. »
Ouais. C'est ça. C'est les lettres qu'on coud ensemble avec un fil et on en fait un lustre.
Une lampe. Pourquoi il se marre,
Sorge ? Non, c'est le lustre. C'est peut-être le nombre de candélabres, c'est quoi c'est...
Ah non, c'est le papier. Vous n'avez peut-être pas vu ça, mais c'est des créations de papier incroyables. Vous avez des grands lustres avec des feuilles de papier. Et en fait, l'aiguille, c'est le temps qui traverse toutes les épaisseurs.
Moi, je voyais plutôt un lustre avec une multitude de candélabres, tous dans tous les sens, comme une pieuvre.
Non, trop sinistre. Le papier, c'est la lettre elle-même.
Les candélabres dorés, trop sinistres.
Non, j'aime pas le doré.
D'accord. Ouais. Alors, on va vous laisser tous les deux. Moi, je suis complètement largué.
Non, vous êtes parfait.
Je ne comprends plus rien à cette émission.
Non, c'est vous qui reliez tous les fils.
Oui, j'essaye, mais là, j'ai du mal. Allez, le mot de la fin, c'est pour un libraire, Corinne de Sarzan. Honneur à la France aujourd'hui, Mathieu Colombe. Soyez bref.
En fait, moi, j'ai trouvé ce roman beau. D'abord parce que justement, votre style peut dérouter un peu au début parce qu'il est très trapu, mais il rajoute très rapidement au plaisir de lecture. Oui, il y a beaucoup de choses quand même, c'est assez généreux. Et ensuite, parce que justement, cette histoire est magnifique, mais en même temps, on ne verse pas dans le larmoyant, ce qui fait une lecture absolument fantastique.
Voilà, on termine sur une note positive.
Je lui saute au cou.
Gardons la lumière.
Gardons la lumière.
Merci Corinne, merci Sorge. Corinne de Sarzan, le soutien-gorge noir est paru aux éditions de l'Air.
Et puis couilles de velours, n'oubliez pas.
Allons-y. Terminons cette émission. Marco, envoyons.
Mais non.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le groupe Petit Fantôme qui va vous plaire, Corinne, avec un extrait de Libération terrible. Petit fantôme, Libération terrible, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Lucas Vaillant, Thierry Dupin à la prog musicale. Merci Sorge Chalandon, merci Corinne de Sarzan, à très bientôt.
Merci Misérable.
Misérable. à la rédaction Jean-Philippe Béret, avec Laure Grand-Besançon et Vera Lou de Ride en France, Martine Béguin-Felé et Annick Chouin en Suisse, René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguay et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons notamment avec Leïla Slimani et Jean-Philippe Toussaint. Passez une bonne semaine, un beau week-end. À bientôt.